Deutsche Welle, Info, Matin. Nous sommes le jeudi 26 janvier 2017, il est 7h en temps universel, 8h à Bonn et vous écoutez Info Matin à la présentation Constance Wenkötze et Fréjus Kenhomme. Bonjour Fréjus.
Bonjour Constance, bonjour à toutes et à tous. À la une de notre édition matinale, l'engagement allemand au Mali. Les députés s'expriment aujourd'hui à Berlin sur le renforcement de la mission de la Bundeswehr dans ce pays.
Nous évoquerons aussi le retour annoncé du nouveau président gambien Adama Barrow et la visite de la patronne du FMI Christine Lagarde en Centrafrique.
La coupure de la connexion Internet, solution des autorités du Cameroun pour prévenir de nouvelles tensions dans les zones anglophones.
Ali, on ne coupera pas la parole. Vous êtes avec nous pour le sport, Ali.
Bonjour à toutes et à tous. Dénouement dans le groupe D. Le duel tant attendu entre le Mali et l'Égypte n'a pas eu lieu. En effet, les Pharaons ont battu le Ghana 1-0, tandis que les Aigles du Mali n'ont pu faire mieux que 1 partout face à l'Ouganda. C'est terminé pour la phase de poule. Bientôt les quarts de finale et ça débute ce samedi.
Allez, Farad, rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Après le sport, les invités de la semaine débattront des aspirations anticolonialistes actuelles en Afrique. Bon réveil et bon début de journée à l'écoute de la Deutsche. Et on démarre cette édition avec le Flash Info. Fréjus, le nouveau président des États-Unis a ouvert hier la voie à la construction d'un nouveau mur à la frontière avec le Mexique.
Oui, c'était l'une des principales promesses de campagne de Donald Trump. Ce mur devrait, selon le nouveau locataire de la Maison-Blanche, limiter les entrées illégales de migrants ainsi que le trafic de stupéfiants. Donald Trump.
Je viens de signer deux décrets qui vont sauver des milliers de vies, des millions d'emplois et des milliards et des milliards de dollars. Le ministre en charge de la sécurité intérieure, en collaboration avec moi-même et mon cabinet, va immédiatement entamer la construction d'un mur à la frontière.
Le mur devrait être long de 3200 km, l'équivalent de la longueur de la frontière avec le Mexique. Trump espère que la construction pourra démarrer dès le mois prochain et pense que le projet pourrait coûter 8 milliards. Mais les experts prédisent qu'il faudra bien plus d'argent que ça. Le Mexique s'est déjà opposé à cofinancer la construction de cette barrière dont il conteste l'utilité.
En France, la justice a ouvert une enquête préliminaire sur l'affaire Pénélope Fillon.
Pénélope Fillon, épouse du candidat de la droite à la présidentielle François Fillon, elle est soupçonnée d'avoir occupé, dans la période de 1998 à 2002, un emploi fictif au Parlement. Madame Fillon était collaboratrice de son mari et ensuite du successeur de ce dernier. Elle aurait perçu un total de 500 000 euros en provenance des caisses parlementaires. Un emploi légal en dépit du lien matrimonial, d'après les proches de François Fillon, dont l'honneur est en jeu à quelques mois de la présidentielle. Le président allemand est en visite en France, une visite d'adieu pour Joachim Gauck, car dans un peu plus de deux semaines, il achève son mandat qu'il ne souhaite pas voir renouvelé. Le président allemand a plaidé pour un renforcement des relations entre la France et son pays. Ce partenariat, juge-t-il, est utile pour une Europe stable face à l'élection de Donald Trump, la politique étrangère de la Russie et la menace terroriste.
Contrôle des frontières, l'Allemagne pourrait poursuivre jusqu'à mi-2017 sa surveillance de la frontière avec l'Autriche.
Oui, c'est ce qui ressort de la réponse hier du ministre de l'Intérieur Thomas de Maizière au Parlement suite à une question du Parti des Verts. Le contrôle à la frontière avec l'Autriche pourrait même se prolonger jusqu'à la fin de l'année à cause de la pression migratoire. Signalons que la Commission européenne a donné son feu vert hier à une nouvelle prolongation de 3 mois des contrôles à certaines frontières intérieures de l'espace Schengen. Contrôle réintroduit l'année dernière par l'Autriche, le Danemark, la Suède, la Norvège et l'Allemagne, confrontés à un fort afflux migratoire.
Nouvelle étape dans le processus de retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.
Après le référendum, le gouvernement britannique compte soumettre aux députés aujourd'hui un projet de loi sur le Brexit. Le débat parlementaire devrait avoir lieu au plus tôt la semaine prochaine. Une adoption définitive est espérée pour fin mars. Theresa May, la chef du gouvernement britannique, va ensuite informer les institutions européennes du résultat et, le cas échéant, lancer ainsi les négociations en vue du retrait de la Grande-Bretagne.
Et puis pour terminer, la Haute Cour de Londres décide aujourd'hui si le groupe pétrolier anglo-néerlandais Shell peut être poursuivi au Royaume-Uni pour pollution au Nigeria.
Lors d'une audience il y a 3 mois, Shell avait contesté les recours engagés à Londres, faisant valoir que l'affaire devait être jugée au Nigeria, là où les faits présumés se sont déroulés. Plus de 40 000 Nigériens ont formé 2 recours collectifs pour demander des comptes au groupe pétrolier et à sa filiale nigériane SPDC, qu'ils tiennent responsables des fuites de l'éoduc ayant détruit leurs terres et pollué leurs étangs.
Et il est 7h05, Antoine Universel, la même heure à Bamako, au Mali. Vous écoutez Info Matin sur les ondes de la Deutsche Welle. Et c'est aujourd'hui que le Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, doit se prononcer sur le renforcement de l'engagement militaire de l'Allemagne au Mali. Les députés devraient approuver l'envoi de soldats supplémentaires alors que l'insécurité règne toujours dans le pays.
Si le vote est positif, le Mali accueillera le plus grand déploiement de soldats allemands à l'étranger et, concrètement, le contingent de la Bundeswehr au sein de la mission de l'ONU devrait être porté de 650 à 1 millier d'hommes.
Et c'est donc un peu plus que les 980 militaires allemands basés actuellement en Afghanistan. Les précisions de Udo Bauer et Claire-Marie Kostmann.
Lors du débat au Parlement la semaine dernière, la ministre allemande de la Défense a reconnu elle-même que le Mali représentait actuellement la mission de l'ONU la plus dangereuse. Mais Ursula von der Leyen a ajouté qu'il fallait faire de ce pays un État stable. Le Mali est sur la route des migrations, mais aussi des contrebandiers d'armes et du crime organisé, a justifié la ministre. Dans le nord du pays, les soldats allemands partagent le camp Castor, à quelques kilomètres de Gao, avec leurs homologues néerlandais. Ils affirment surveiller et montrer leur présence pour dissuader les éventuelles attaques, même si cela peut être frustrant pour la population, dit ce militaire.
Nous ne sommes pas dans la phase où nous pouvons vraiment mener des opérations dans le pays. Nous l'expliquons aux gens, ils comprennent. Bien sûr, la MINUSMA doit agir pour la sécurité des gens. Nous faisons ce que nous pouvons.
4 ans après l'opération française Serval, et alors que la MINUSMA compte 11 000 hommes au Mali, le pays est toujours en proie aux attaques. Rien que le 18 janvier dernier, une attaque suicide contre un camp des formations signataires de l'accord de paix a fait près de 80 morts et 120 blessés à Gao. Une attaque revendiquée par le groupe du djihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar, rallié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Alors Boubacar Touré, journaliste radio à Gao, demande aux militaires d'en faire plus.
Il ne faut pas attendre qu'il vienne. C'est toi qui vas le chercher. C'est toi qui dois le traquer dans ses derniers retranchements pour qu'il ne puisse pas avoir même l'occasion de se préparer ou de prendre contact avec des gens. Mais si on reste toujours campé dans notre position, on n'intervient que lorsque les terroristes font quelque chose, ça devient beaucoup plus compliqué.
À Berlin, les socialistes et les conservateurs au pouvoir devraient approuver le texte sur les renforts militaires allemands, ce à quoi s'oppose Die Linke, à gauche, pour qui la MINUSMA ne peut pas apporter la paix, car elle fait partie intégrante du conflit.
À noter que, outre les moyens supplémentaires en hommes, l'Allemagne devrait également envoyer 4 hélicoptères de transport et 4 hélicoptères de combat, afin notamment d'évacuer les blessés.
Alors que pensez-vous de l'engagement accru de l'Allemagne au Mali? Pensez-vous que l'envoi de soldats supplémentaires soit la bonne solution pour stabiliser le nord du pays? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis en nous envoyant un mail à français@dw.com. Vous pouvez aussi poster un commentaire sur notre page Facebook.
Deutsche Welle. Rendez-vous sur facebook.com/dw.français.
7h08 en temps universel et la même heure en Gambie où un jour important se lève, Fréjus.
Oui, Constance, effectivement, puisqu'Adama Barrow est attendu dans l'après-midi à Banjul. Selon son porte-parole, Halifa Salah, joint hier par la Deutsche Welle, le nouveau président devrait rejoindre la capitale gambienne vers 16h.
Et les attentes et les défis qu'il va devoir affronter s'annoncent immenses et la page de son prédécesseur Yahya Jammeh n'est pas complètement tournée. Une étape nécessaire selon Thomas Foy, qu'il est représentant de la Fondation Konrad Adenauer à Dakar. Dakar où Adama Barrow, on le rappelle, a prêté serment il y a une semaine.
La vice-présidente choisie par Barrow est elle-même une ancienne ministre de Yahya Jammeh. D'autres personnalités politiques qui ont au moins formellement fait partie du système Jammeh vont rejoindre Barrow. C'est une manière pour le nouveau président d'adoucir le ressentiment des partisans de Jammeh. Et puis l'ancien président lui-même aurait écrit une lettre où il propose ses services à son successeur pour l'aider dans la gestion du pays. Le document a été publié sur le site de la présidence. C'est un signal de plus qu'Adama Barrow veut envoyer aux partisans de Yahya Jammeh. C'est vraiment l'esprit du moment en Gambie, réinstaurer l'unité dans le pays, tourner le regard vers l'avenir et enfin ouvrir une nouvelle ère pour la Gambie.
C'était Thomas Foyck, représentant de la Fondation Konrad Adenauer à Dakar, au micro de Christine Hayes. À noter aussi que l'envoyé spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Trambas, accompagnera M. Barrow de Dakar à Banjul aujourd'hui et qu'une fois sur place, le nouveau chef de l'État résidera dans un premier temps chez lui plutôt qu'à la présidence.
La présidence sous le contrôle sécuritaire de la force de la CEDEAO, le nouveau président, le rappelle, a demandé la poursuite de l'opération militaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour des raisons de sécurité et pour enquêter sur les affirmations indiquant que des mercenaires et des armes seraient entrés en Gambie durant ces dernières semaines.
Autre rendez-vous à retenir aujourd'hui, Mohamed Ibn Trambas, que l'on évoquait à l'instant, donnera aussi dans la matinée une conférence de presse avant de se rendre en Gambie, justement. Conférence de presse qui portera sur la situation politique et sécuritaire de la région.
Pendant ce temps au Tchad, la coalition de l'opposition démocratique pour l'alternance et le changement a déploré l'annonce du président Idriss Déby selon laquelle les législatives ne pourraient se tenir qu'après 2019. Par ailleurs, une information de notre correspondant au Tchad, 6 militants de l'opposition proches du maire de la ville de Moundou ont été arrêtés cette nuit. Pour l'heure, on ignore pourquoi.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Il est 8h11 à Bonn, la même heure à Bangui, où Christine Lagarde a bouclé hier une visite de travail de 48 heures.
La directrice générale du Fonds monétaire international a lancé un message fort à l'ensemble de la communauté internationale pour une mobilisation sans faille en faveur de ce pays, fragilisé par plusieurs années de crise militaro-politique et économique.
On fait le point tout de suite avec notre correspondant à Bangui, Jeff Murphy-Barres.
Dans son message au peuple centrafricain, Christine Lagarde a expliqué qu'elle est venue dans ce pays qui aspire au relèvement pour écouter, regarder, mais surtout offrir un engagement total de son institution sous la forme de soutien financier et d'assistance technique. Christine Lagarde.
Mais je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste pour la République centrafricaine. Sous réserve de la bonne exécution du plan national de relèvement et de consolidation de la paix, le FMI, dans un contexte, je vous l'ai dit, où la croissance régionale est plus faible, prévoit une croissance de la RCA de l'ordre de 5%, et pas seulement sur une année de retournement, à moyen terme. La mobilisation des promesses d'aide de vos partenaires à hauteur de 2,2 milliards de dollars faciliterait bien sûr l'exécution du plan et la réalisation de ce résultat. Le FMI vous accordera son soutien total dans cette quête de stabilité politique et de prospérité économique.
Avant de s'envoler dans l'après-midi pour Kampala, la patronne du FMI a déjeuné avec des femmes centrafricaines de la société civile. Dina Claudia Bagaza, coordonnatrice de l'ONG Demain la vie, salue l'action du FMI en RCA.
Déjà l'année passée, le FMI, à travers sa directrice, a plaidé pour la Centrafrique. Nous avons eu bénéficié d'un projet dans le cadre de facilités élargies de crédit. On a eu des milliards pour nous aider à sortir de cette crise. Ensuite, toujours à travers la directrice du FMI, la RCA a pu tenir sa table ronde à Bruxelles où tout le pays était très, très enchanté de cette réussite. Et aujourd'hui, elle se déplace personnellement pour venir nous rendre visite. C'est vraiment un message fort.
Si le calme est revenu à Bangui, le pays peine à se relever de 3 années de violents conflits. Occasion pour Anissé Georges Dologuele, chef de file de l'opposition centrafricaine, de suggérer à la patronne du FMI de passage à l'Assemblée nationale la mise en place d'un plan Marshall.
Pour éviter que nous ne retombions encore dans une crise, j'ai proposé un plan Marshall. C'est une réflexion globale autour d'un pays piloté au niveau mondial pour faire en sorte que l'argent revienne massivement pour couvrir tous les pans du pays qui sont en crise.
Jeff Murphy-Barres à Bangui pour la Deutsche Welle.
Et après la Centrafrique, Christine Lagarde s'est envolée pour l'Ouganda où elle doit rester jusqu'à demain. Elle va terminer sa tournée africaine par l'île Maurice.
Toujours concernant la RCA, la MINUSCA a réaffirmé son soutien aux autorités du pays dans leur dialogue avec les groupes armés.
En plus bref, maintenant direction le Cameroun, où le gouvernement a bloqué Internet dans deux régions du pays, deux régions à majorité anglophone, et ce pour mettre des bâtons dans les roues au mouvement de protestation.
Oui, et ça marche, puisque sans Internet, bien sûr, il devient difficile pour les militants fédéralistes de mobiliser la population, mais l'impact de ces coupures est aussi économique, comme le montre ce reportage à Bamenda de Moki Kinzeka. Il est présenté par Fiacre Ndeye-Aridje.
Depuis que la décision est tombée il y a une semaine, Goran, Ephraim et ses 7 employés n'ont plus de travail. Leur cybercafé dans un quartier commercial de Bamenda est un lieu normalement très fréquenté par les étudiants et autres chercheurs voulant des services Internet.
C'est insupportable. Les étudiants ne sont plus capables de continuer leurs travaux de recherche. Les banques ou institutions financières qui font des transactions monétaires ne fonctionnent plus. Les personnes qui ne comptent que sur l'Internet pour gagner le pain quotidien sont désœuvrées. Beaucoup de jeunes qui sont très actifs dans ce secteur ont été massivement licenciés. C'est terrible.
Bamenda est le centre de la fronde anglophone qui touche le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Le mois dernier, les manifestations contre l'influence des Français dans ce pays bilingue avaient dégénéré. Face aux revendications fédéralistes ou même sécessionnistes, pour certains, le gouvernement a choisi la manière forte. En plus de la coupure d'Internet, un avertissement a été donné à la compagnie de télécommunications, indique la ministre de la Communication, par rapport aux messages SMS qui peuvent déstabiliser l'unité nationale. Une nécessité selon l'Ibom Lil Kang.
Même en France, même aux États-Unis, il y a une réglementation. Ce que nous vivons aujourd'hui dans la propagation des informations fausses, où on vous envoie un message, on dit « envoyez-le à d'autres personnes ». Il faudrait donc que vous sachiez, que vous puissiez justifier. Les Camerounais croient qu'en un clic, ils sont cachés. C'est juste un rappel de ce qui existe pour que demain, quand ils seront interpellés, qu'ils ne disent pas qu'ils ne le savaient pas.
Et le régulateur des médias menace d'aller encore plus loin. Le Conseil national de la communication agite la menace d'une interdiction définitive d'activité pour les médias qui reprendraient des messages indépendantistes.
Et l'actualité au Cameroun, c'est bien sûr aussi du foot. Le pays s'est qualifié pour les quarts de finale de la CAN. On retrouve sans plus tarder Ali Farhat pour en savoir plus.
Deutsche Welle, le sport. Ali Farhat.
Rebonjour Ali.
Rebonjour Constance, rebonjour Fréjus.
Bonjour.
Donc ça y est, toutes les rencontres de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations ont été jouées. Et hier soir, c'était le dénouement du groupe D avec ce fameux duel à distance entre le Mali et l'Égypte.
Oui, un duel qui n'a pas eu lieu puisqu'à Oyem, les Aigles du Mali se sont retrouvés menés au score par l'Ouganda. Les Grues qui ont ouvert le score par le jeune Farouk Mia à la 70e minute. Dans l'obligation de réagir, les Maliens ont égalisé 4 minutes plus tard par l'intermédiaire d'Yves Bissouma qui ouvre le compteur but des Aigles dans ce tournoi. On en restera là, score final 1-0, le Mali qui sort la tête basse de cette CAN.
Et les Ougandais portent un nom qui fait peur, les Grues. Pendant ce temps à Port-Gentil, l'Égypte a joué un mauvais tour au leader, le Ghana, Ali.
En effet, les pharaons n'avaient besoin que d'un point pour se qualifier, et ce quel que soit le résultat du Mali. Ils ont fait mieux que ça, les pharaons, puisqu'ils ont pris l'avantage grâce à Mohamed Salah qui a inscrit un superbe coup franc, un avantage définitif. L'Égypte s'impose 1-0 et prend la tête du groupe D avec 7 points, soit une longueur d'avance sur le Ghana. Une victoire que les pharaons sont allés chercher avec les tripes, comme l'explique le milieu Ahmed El Mohamadi. C'était une bonne performance de la part de toute l'équipe. Nous avons tout fait pour finir en tête du groupe D, surtout que ce n'était pas évident face à une équipe aussi forte que le Ghana. Nous voulions absolument gagner pour rester ici à Port-Gentil pour notre quart de finale. Nous ne voulions pas nous rendre dans une autre ville, cela nous aurait fatigués. Donc nous avons pris les 3 points et nous restons ici.
C'était le pharaon Ahmed El Mohamadi. Et dimanche donc à Port-Gentil, l'Égypte jouera donc contre le Maroc en quart de finale.
Tandis que le Ghana ira à Oyem, donc pour défier les léopards de la République démocratique du Congo. Et ce sera loin d'être une partie de plaisir selon l'attaquant des Black Stars, Asamoah Gyan. Cela ne va pas être facile. Nous allons jouer contre une équipe très forte de République démocratique du Congo. Nous devons penser à ce match maintenant. Nous allons rentrer nous reposer, puis nous irons sur le terrain et on verra ce qui se passera. République démocratique du Congo contre Ghana, suivi d'Égypte-Maroc, ce sera dimanche. Donc, samedi, on aura Burkina Faso contre Tunisie et Sénégal-Cameroun, de belles affiches donc pour les quarts de finale.
Et on ne doute pas, Ali, que vous suivrez tout ça pour nous et que vous nous tiendrez, bien sûr, informés des résultats. Merci, Ali.
Invité de la rédaction.
Vous écoutez Info Matin, c'est la rubrique du jeudi. Le discours anticolonialiste a pris son envolée en Afrique avec des protestations contre le franc CFA, les accords de partenariat économique ou encore contre l'installation de bases militaires dans certains pays. Mais cette aspiration à l'épanouissement qui emprunte une démarche nationaliste pourrait être polluée par le populisme. C'est le thème cette semaine du débat Arbre à Palabre dont cette rubrique est un extrait.
Oui, les invités sont Brigitte Kafui et Adiamagbo Johnson. Femme politique togolaise et ex-candidate à la présidentielle, Michel Galli est un politologue français et Guy Marius Sagna, coordonnateur de la coalition Non aux APE au Sénégal, c'est le premier intervenant.
Le problème de l'Afrique, c'est la nature de ses relations avec le reste du monde. Parce que les relations actuelles entre l'Afrique et le reste du monde sont une relation du cavalier et de la monture, où l'Afrique a cette place de monture. L'Afrique est ce continent où, pour 100 dollars investis par l'étranger, le capital étranger est en mesure de récolter chaque année 77 dollars, 80 dollars, 50 dollars. Voilà pourquoi, quand on nous parle de croissance, ce n'est pas nos populations qui mangent cette croissance-là, c'est en fait le reste du monde qui mange cette croissance et qui laisse à nos populations pauvreté, analphabétisme, maladie.
Et ce discours qui demande donc que l'Afrique puisse s'affranchir d'une certaine hégémonie qui est imposée, comment est-ce que ces discours vous parviennent-ils, M. Michel Galli?
Je pense que les opinions d'un côté et de l'autre, notamment les opinions anti-impérialistes ou anti-coloniales, elles sont partagées en Occident. Il y a une partie de la population, dont je suis sans doute, qui est pour une nouvelle forme de relation Nord-Sud. Il y a quand même une division dont on n'a pas encore parlé, et il est impensable que la Grande-Bretagne intervienne, par exemple, au Kenya, où il y a eu des querelles post-électorales, comme la France l'a fait par exemple en Côte d'Ivoire. Donc il y a une spécificité malheureusement française dont j'ai pu dire que c'est un pays qui est en retard d'une décolonisation, qui a des bases militaires dans toute l'Afrique et qui mène une politique de droite et de gauche assez férocement néocoloniale, parce que c'est un système quand même violent de domination et d'extorsion. Donc, il y a une montée, effectivement, de ces revendications dans la jeunesse et sans doute une tentative de récupération par un certain nombre d'autocrates, despotes, dictateurs africains.
Alors, justement, Guy Marius Sagna, qu'est-ce que vous pensez donc de ces dirigeants autocrates qui prennent pour leur compte votre discours, le discours qui veut que l'Afrique se libère du joug de l'Occident?
L'anti-impérialisme, l'anti-hégémonisme dont nous sommes porteurs, est un anti-impérialisme démocratique. C'est-à-dire que des autocrates qui ont un discours anti-impérialiste, c'est bien, mais on l'a vu, comme dans l'exemple libyen, on a vu, comme dans l'exemple irakien, que cette posture-là, ce n'est pas la meilleure, parce que vous ne faites pas accord avec votre peuple. C'est pourquoi il ne suffit pas de dire que c'est un problème de souveraineté, qu'il faut arracher, mais il faut également faire corps avec son peuple. Bien sûr, la lutte pour la souveraineté va de pair avec la lutte pour la démocratie. Nous voulons des régimes effectivement démocratiques qui se battent aussi pour arracher la souveraineté économique qui est nécessaire pour pouvoir définir nous-mêmes nos politiques et transformer les rapports entre l'Afrique et le reste du monde.
Oui, Michel Galli, en parlant de ces dirigeants, de certains dirigeants qui ne sont pas forcément légitimes, il dit qu'ils ne font pas corps avec le peuple. Est-ce que M. Sagna ne met pas le doigt sur une des difficultés du panafricanisme ou du nationalisme en Afrique? Est-ce que le nationalisme est possible lorsqu'on est dans un contexte multi-ethnique?
Alors, bon, effectivement, il n'y a pas que la question d'ethnie, mais il y a la question aussi, par exemple, linguistique. Je pense au Cameroun actuellement. Donc, il peut y avoir d'autres clivages, le clivage de caste, par exemple. Quant aux leaders, je pensais, par exemple, à Idriss Déby du Tchad, qui peut, de manière opportuniste, en quelque sorte, porter lui-même des critiques envers le CFA, alors qu'il est quand même un des piliers de ce qu'il faut bien appeler la France-Afrique, lui-même et son armée. servent de supplétifs à l'armée française, en particulier au Mali.
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sur les réseaux sociaux en Afrique, en tout cas, Idriss Déby est la star. Il est beaucoup apprécié pour son discours contre le franc CFA, alors qu'on sait comment ça se passe à l'intérieur du Tchad.
Oui, on le sait. Alors vous avez raison, c'est du discours, voire même de la propagande. Je pense, par exemple, à Ali Bongo en conflit avec Jinping, qui se fait passer pour un panafricaniste. Excusez-moi, pour ceux qui connaissent le Gabon, en dehors des Gabonais eux-mêmes, ça fait quand même sourire, voire rire aux éclats.
Mais Madame Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, vous pensez que la domination dont on parle est imposée, mais on voit bien que certains dirigeants ou décideurs africains prêtent bien flanc à cette imposition. Donc la faute n'est pas qu'aux Occidentaux, non ?
Absolument. Absolument, il faut le reconnaître. Mais en même temps, je serais tentée de dire que jusqu'à présent, le rapport de force a été tel que, au bout du compte, on se dit l'Occident est la première responsable. Pourquoi ? Parce que c'est évident pour les peuples africains que pendant longtemps et aujourd'hui encore, dans beaucoup de pays, l'Occident a imposé des dirigeants qui étaient rejetés. Allusion à la manière dont l'Occident se comporte face aux élections truquées. Le cas récemment du Gabon, cité tantôt par Michel Galli.
Les invités de la semaine, un extrait du débat Arbre à Palabre que vous retrouverez au complet demain à partir de 17h30 et samedi à 7h en temps universel sur les ondes de la Deutsche Welle.
À vous la parole.
Et après la publication du nouveau rapport de l'ONG Transparency International sur l'indice de corruption dans le monde, eh bien vous êtes nombreux à réagir à ce phénomène. Mireille Drone a recueilli vos commentaires.
En Afrique, la corruption est devenue un métier, surtout si tu fais partie du gouvernement en place, affirme Boubacar du Niger. En 2016, nous avons vu un militant du parti au pouvoir qui a falsifié plus de 1000 actes de naissance à distribuer à des militants, mais il a été arrêté après avoir quitté la mouvance présidentielle, affirme Boubacar, qui s'inquiète des conséquences de ce phénomène pour la République. La corruption chez moi au Mali a été institutionnalisée à travers des détournements au vu et au su de tous, sans que les voleurs soient punis, affirme aussi à bout de Bamako. Et au Togo, la corruption est carrément devenue une épidémie qui a touché tous les secteurs de la politique, agricole, économique, etc., à en croire Bewezima de Lomé. On le vit et on le sent, l'octroi des marchés publics se fait de main à main ou de gré à gré, d'où le développement de la théorie du « tu manges, je mange », écrit-il. Actuellement, la route qui relie Lomé à Vaughan reste inachevée parce qu'il y a eu détournement de fonds, mais l'entreprise chargée de construire cette route n'est pas poursuivie pour rembourser les fonds, regrette notre auditeur. Pour Raymond, du Togo également, le problème est crucial.
Étant jeune, si tu veux trouver de l'emploi, il faut avoir quelqu'un à un niveau donné pour pouvoir trouver de l'emploi là-bas. Le concours de recrutement des policiers, avant de venir déposer son dossier, il faut être envoyé par peut-être un colonel, bien quelqu'un que ces gens-là connaissent bien. Souvent, c'est à la tête de certains mouvements. Par exemple, sur le campus, il y a différents syndicats, bien différentes associations pour réclamer le droit ou bien le bien-être des étudiants. En fait, comme c'est responsable, c'est une bourse qu'ils ont reçue. Mais il faut rien de grand comme ça, hein, à la tête aussi de beaucoup de services. Mais il y a aussi certaines organisations qui ont été mises sur pied pour lutter contre ce type de corruption. On va prier qu'ils arrivent aussi à le faire avec conscience pour le bien-être et le futur de nos sociétés.
Claude de Bukavu, RDC, l'affirme, la corruption dans mon pays va très bien sur tous les plans, au plus haut niveau. Et en matière de circulation, là, c'est horrible, nous rapporte Claude. Il nous envoie à titre d'exemple la photo d'une voiture qui croule sous une surcharge de matelas parce que le chauffeur a, selon lui, payé la police de la circulation routière pour qu'elle ferme les yeux.
Vous êtes toujours sur Info Matin. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, Fréjus.
Le retour du président gambien Adama Barrow. Il est attendu dans son pays à 16h, temps universel. Conférence de presse du représentant spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, va s'exprimer sur la situation politico-sécuritaire dans la région. Autriche, prestation de serment attendue ce matin pour l'entrée en fonction de l'écologiste libéral Alexander van der Bellen. Et puis la journée internationale du souvenir de l'Holocauste célébrée aujourd'hui.
Merci Fréjus et merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à 17h en temps universel sur nos ondes pour un nouveau journal. D'ici là, passez une très très bonne journée. Tchuss !